invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis De Fels est à nos côtés ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Merci à Julien Nebenzal d'être avec nous également. Bonsoir Julien.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes administrateur d'Advise et Nuno Texera à nos côtés également. Bonsoir Nuno.
Bonsoir
Vous êtes
Grégoire.
Membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. La performance des marchés est trop concentrée. C'est la critique qu'on entend en ce moment. Les indices boursiers, pour la plupart, sont au sommet, des sommets historiques, en Europe, aux États-Unis, au Japon. On est dans l'ère des méga caps, effectivement, qui pèsent des centaines, voire des trillions de dollars aujourd'hui et qui représentent donc un poids démesuré peut-être dans certains indices. Mais quand on regarde la performance des indices, on trouve également des phénomènes de concentration très importants. La performance des grands indices repose sur quelques valeurs uniquement aujourd'hui, Nuno. C'est l'histoire des marchés depuis 30 ans, d'être
concentré. Oui, c'est pas seulement aujourd'hui, tout à fait. Je me suis penché sur une étude de l'Université d'État d'Arizona qui a porté sur la période 90 jusqu'en 2020. Et ils ont analysé 64 000 valeurs. Alors, on pourrait peut-être leur reprocher un échantillon trop large avec sans doute beaucoup de petites valeurs. Il n'en reste pas moins que seulement 2,4% de ces 64 000 valeurs expliquent la totalité de la hausse. Alors, c'est 2,4% pardon, pour les États-Unis. Ouais. C'est même moins pour l'Europe. Dans un cas, 75 trillions de capitalisation boursière créée et dans l'autre, un peu plus de 30 trillions. Donc, cette concentration sur un petit nombre de valeurs qui explique l'essentiel de la hausse, c'est déjà un phénomène qu'on a constaté depuis des décennies.
Depuis 30 ans, il y a eu 75 trillions de création de valeurs sur le marché américain et à peine 2% des valeurs cotées ont permis cette création de valeurs.
Tout à fait.
Quel enseignement on en tire pour 2024 et au-delà? C'est-à-dire qu'il faut être attentif à ces phénomènes de concentration, de performance, de poids dans les indices. Ça implique une gestion du risque, mais il faut faire avec.
Il faut faire avec. C'est vrai qu'il y a un peu du winner takes all. Hein. Ouais. Les investisseurs sont rassurés par la visibilité, la croissance, la rentabilité d'un certain nombre de grandes valeurs. Après, ça n'empêche pas qu'ils puissent redescendre sur Terre. On l'a vu pour les 7 magnifiques cette année, avec un Tesla qui est quand même en assez forte baisse, Apple également. Donc, il y a quand même des mécanismes d'autocorrection. Et puis, pour rappeler le cas d'Nvidia, évidemment, que tout le monde regarde, le gros de la performance depuis 2020-2021, c'est fait vraiment sur les résultats, alors que les multiples de capitalisation ont assez sensiblement baissé. Et c'est une valeur qui se paye un peu au-dessus de la moyenne du marché, autour de 28-30 fois les résultats. Ce qui, compte tenu du niveau de rentabilité, du niveau de croissance de l'activité, du chiffre d'affaires, semble pas absolument choquant.
Que vous inspire cette statistique, Julien? Voilà, à peine quelques pourcents des valeurs cotées expliquent la totalité de la création de valeur sur longue période. C'est normal, c'est naturel, c'est ainsi que fonctionnent les marchés, les indices boursiers aujourd'hui?
Alors, je ne connaissais pas cette étude, elle ne me surprend pas beaucoup, parce que bon, les indices, premier indice véritable, Dow Jones, créé 1892-94, quelque chose comme ça, dans le but, par ses fondateurs, de refléter l'économie au sens où l'information, je les cite, escomptée par les cours de bourse, représente l'économie dans un horizon de temps supérieur de 6 mois. Enfin, c'est 6 mois plus tard. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui se passera en termes de valeur dans 6 mois. Il n'y a pas d'autre projet à ce moment-là. Donc, on ne peut pas attendre des indices, a priori, autre chose que leur premier projet. Si après, on en fait des références de gestion, c'est le choix qui a été fait par l'industrie financière. Mais au départ, l'indice, c'est ça, son projet. C'est pour essayer d'y voir un peu clair sur l'état de l'économie à l'époque américaine, qui elle-même escompte des informations. Après, le reflet de la... Les ETF progressent irrévocablement. La gestion active, que ce soit aux USA ou en Europe, sur moyenne ou longue période, fait chroniquement son indice de référence ou un peu en dessous.
Moins les frais, en général.
Oui, oui. Donc au total, y a-t-il une capacité à distinguer des valeurs, etc. La preuve est que pour le moment, non, ça n'est pas ça. Mais est-ce que c'est vraiment la finalité? Est-ce qu'on demande pas, est-ce qu'on propose pas aux épargnants finalement de suivre quelque chose qu'on a défini comme un indice, comme représentant une économie ou quelque chose ou une indication? Et après, pour revenir au sujet des 64 000 valeurs, c'est ce que je ne connais pas. 2%, ça m'en fait à peu près 1200, quelque chose comme ça. Dans un groupe, dans une économie alors dynamique comme les USA, qui voit en fait des créations d'entreprises très régulières et des disparitions tout aussi régulières, vous avez en fait, à mon avis, dans l'univers analysé, 80% de boîtes qui appartiennent à ça. C'est-à-dire qui se développent, qui disparaissent, etc.
Bien sûr.
Et ça, sur une période de 30 ans, parce que la durée de vie moyenne des entreprises n'est quand même pas très élevée, du fait de la capacité de créer aussi. Ce n'est pas une critique. Mais en revanche, sur la partie haute de cet univers, vous avez des entreprises qui dégagent justement l'essentiel de leur marché, qui ont une capacité on parlait un petit peu en antenne du B2C, qui ont une capacité à aller chercher des marchés de taille qui absorbent les coûts fixes qu'on trouve par exemple pas en Europe, ce qu'on pourrait trouver en Chine, mais c'est une économie administrée, c'est pas la même chose. Donc c'est relativement normal qu'elles obtiennent des bénéfices significatifs. Et j'ajoute à ça la période d'innovation qui a commencé dans les années 80-90 avec l'Internet qui arrive du militaire, etc. Et qui développe énormément de choses, la bulle Internet qu'on a connue, et aujourd'hui on parle d'NVIDIA et l'intelligence artificielle. Et donc, on est sur des entreprises qui clairement définissent l'économie actuelle et l'avenir économique. Alors que ce petit groupe d'entreprises représente une grosse partie de la performance, ne me choque pas. Voilà. Je n'ai pas d'observation particulière sur ce.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre des chiffres sur effectivement cette intuition qu'on peut avoir et sur une période d'une bonne trentaine d'années, que ce soit sur le marché américain. Mais la mesure est effectivement à peu près identique. On trouve en tout cas le même ordre de grandeur si on réplique le calcul sur des marchés non américains, comme vous le disiez. Et même la performance est encore plus concentrée autour d'un petit groupe de sociétés en dehors des États-Unis.
La création de valeur a été plus de deux fois supérieure aux États-Unis par rapport à l'Europe. C'est ça qu'il faut sans doute regretter.
Sur ce phénomène de concentration indicielle dont on a déjà discuté de multiples fois, Louis, et puis la situation actuelle des marchés, effectivement, là, c'est maintenant, Nvidia représente jusqu'à quasiment 30% de la performance du S&P 500 depuis le 1er janvier.
Ouais, moi j'ai une autre stat qui va un peu dans ce sens-là, c'est que depuis le 1er janvier 22, 86% de la hausse a été faite par les méga caps. Donc soit les 7 magnifiques aux États-Unis, soit les granola, vous savez l'acronyme pour les 10 anciennes méga caps qu'avait fait Goldman Sachs. Donc c'est 86% de la hausse. Donc c'est vrai que quand vous êtes une maison comme nous, Gay-Lussac Gestion, sur les small et mid cap, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que ça a été peut-être un peu artificiellement tiré les indices vers la hausse. Mais la seule bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que là, le marché, il est tiré petit à petit par les autres valeurs. Quand on regarde le S&P Equal Weight, donc on équipondère les 500 valeurs du S&P, il est revenu lui-même au plus haut. Donc c'est plutôt assez positif. Et c'est vrai que je crois que je l'avais déjà dit la stat une fois sur votre plateau, c'est que à chaque fois que le S&P est revenu, a fait des plus hauts, alors que les indices small cap étaient toujours en bear market, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, normalement, si on suit ce qui s'est passé dans le passé, les small caps devraient suivre ce rallye. Donc c'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'elles ont monté. Les bénéfices par action vont reprendre. Donc on peut espérer que le reste de la cote devrait aider à continuer la bonne performance boursière.
Qu'est-ce qui manque? C'est toujours la même question, Louis, parce que on m'explique qu'il n'y a pas de baisse de qualité dans les résultats des entreprises dans l'univers small et mid cap. Qu'il y a une décote en absolu, en relatif, on peut regarder toutes les métriques historiques qui normalement attirent l'œil et plus qu'un peu. Et il n'y a pas encore l'essai transformé.
Le marché il est devenu hyper momentum, il ne faut surtout pas être contrarié en ce moment. Et c'est assez justifié la croissance de ces méga caps aujourd'hui. Il faut savoir que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les méga caps ont plus de 2 fois à 3 fois plus de croissance des bénéfices par action embarqués que le reste des large caps. Si on prend pour 2024, je crois qu'on est à 6%, 6-7% de croissance des bénéfices par action attendus. Mais si vous prenez ces méga caps, c'est plutôt entre 15 et 20. Donc, plus de 2 fois de croissance des bénéfices par action, c'est normal que vous payiez avec une prime. Aujourd'hui, quand on regarde le S&P, je pense qu'on est à peu près 20-21 fois. Le S&P Equal Weight, il a 16 fois. Et les méga caps, les 7 magnifiques, sont à 30. Donc, si vous les rapportez par rapport à croissance des bénéfices par action, elles ne sont pas forcément bulles. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le momentum revienne sur le reste des valeurs. Et on peut espérer... Il y a une étude de notre ancienne maison mère, Raymond James, qui disait que à partir que le point bas des bénéfices par action des small caps aux États-Unis, c'était le T4. Et normalement, à partir du T4, il y a une accélération la croissance des bénéfices par action aux États-Unis, si vous prenez le Russell 2000 ou le S&P 600, et à l'inverse, les 7 magnifiques ont fait leur plus haut de croissance des bénéfices par action. Je crois que c'était plus 70% sur le quatrième trimestre. Ça va continuer, mais ça va décélérer.
Ouais.
Donc vous avez T1, T2, T3, T4, ça va décélérer sur ces 7 magnifiques. Et au même moment, vous avez tout le reste, les small caps, qui vont réaccélérer. Donc voilà, avec des banquiers centraux qui normalement devraient commencer à baisser leurs taux au mois de juin, les étoiles se réalignent pour avoir une deuxième partie de l'année extrêmement bonne pour le small cap. Mais bon, pour l'instant, on arrête de le dire, on l'a trop souvent dit.
Puis je crois que le marché voudra des évidences de ça, effectivement, mais...
Et c'est la même chose en Europe, puisque je vous rappelle qu'il y a quasiment un peu plus de 2 ans, quand il y a eu la crise russe, tout le monde disait, c'est la fin du monde, on va rentrer en récession. Et donc c'est vrai que les large caps ont coupé depuis un an les carnets de commandes. Donc c'est vrai que les small caps, ça fait déjà 9 mois, même quasiment bientôt 4 trimestres de suite, que les bénéfices par action ont été révisés à la baisse. Donc là, à partir du T1, on va arriver à des effets de base beaucoup plus faciles sur la classe d'actifs, avec des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Donc toute chose égale par ailleurs, normalement vous avez une classe d'actifs qui offre 2 fois plus de croissance organique, de croissance des bénéfices par action que les large caps, avec une valorisation qui est 20 ou 30% inférieure. Donc voilà, c'est QFD comme on dit.
Est-ce que c'est un risque, un vrai risque de ne pas avoir de small et mid cap là en 2024?
Oui, je pense que dans le courant de l'année, c'est clair qu'il faudra revenir. Je pense que le signal clair de la baisse des taux sera un peu le déclencheur. Je pense que...
Il y a une corrélation très forte.
Il me semble qu'il y a une corrélation forte et que cette visibilité aussi sur les bilans, parce que c'est vrai que les small caps, on s'interroge toujours sur leur capacité à se refinancer dans de bonnes conditions. Elles ont moins de sources de financement, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, je pense que ça devrait être un signal important.
Les spécialistes me disent, alors, pour les valeurs de qualité, la qualité n'a pas baissé. Un peu quand même.
Un petit peu.
Ça dépend de l'hiver qu'on regarde, j'imagine.
En septembre, octobre, ça a vraiment été entraîné avec l'eau du bain, parce qu'en effet, comme vous dites très justement, c'est à tort, de temps en temps, on pense que les small caps sont plus endettés et ont plus de mal à refinancer. C'est vrai que c'est sur une partie de la cote, c'est là où souvent il y a beaucoup de particuliers qui aiment spiler, mais il y a beaucoup, quand même, il y a une grande partie des valeurs qui sont de très forte qualité et qui ont été un peu entraînées avec l'eau du bain en septembre-octobre. Et c'est vrai, quand Jérôme Powell a dit au mois de fin octobre,
décembre.
Je crois que c'était en novembre, vous vous rappelez quand les taux ont touché 5%, bon. Bah là, les valeurs qui avaient été un peu injustement sanctionnées, elles sont reparties très fort sur le mois de novembre-décembre. C'était bien reparti en début d'année, et c'est vrai qu'il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui est venu rebattre les cartes.
Le rétropédalage des banquiers centraux a un peu pénalisé à court terme les small caps, mais je pense que la direction, elle est claire. Dans le courant de l'année, on reverra cette tendance à la baisse des taux. Donc,
et ça veut dire, pour aller un peu contre le sens de votre étude, mais il y a des moments quand même où la diversification paye, c'est-à-dire... En termes de performance, est-ce que 2024 doit être une année avec le schéma de se dire que toute la performance ne pourra pas reposer sur 3 valeurs américaines ?
Normalement, on va avoir un rattrapage d'un certain nombre de valeurs, mais il faudra que ce soit des valeurs qui offrent elles-mêmes quand même de la visibilité, de la qualité et de la croissance. Ce qui n'est pas non plus le cas de toutes les small caps.
L'idée tant pas d'abandonner, j'imagine, ce qui fait la performance des marchés aujourd'hui.
Et la sélectivité sur ce type d'univers est encore plus importante.
Julien, est-ce que les marchés sont en surchauffe? Les marchés actions? Quand je dis les marchés actions, évidemment, c'est les marchés américains avant tout. Et quand je dis les marchés américains, évidemment, c'est une composante technologique très dominante au sein de ces marchés.
Non, je ne pense pas qu'il y ait de surchauffe. On pourrait parler de bulle. La question pourrait se poser, est-ce qu'il y a une bulle sur un groupe d'actifs, sur un groupe de valeurs, une catégorie d'actifs? Je n'ai pas ça. Dans mes travaux sur la partie économique, 2016, c'est le début d'un cycle de Juglar. Je rappelle, Juglar, c'est un cycle de 7 à 11 ans, qui a été observé avant même l'action des banques centrales, puisqu'il a fait sa découverte en 1864. Et les vraies actions des banques centrales commencent un peu après aux États-Unis, après la guerre de sécession. Évidemment, se dynamise au XXe siècle, avec surtout l'arrivée de Greenspan. C'est un cycle qui doit se décomposer normalement en ce qu'on appelle 3 cycles de 3 ans et demi, cycle dit de Kitchin, 2016-2019. Je vous donne les points bas de la bourse, comme ça c'est plus facile pour les gens, même si le point bas de l'économie est 6 mois plus tard, ce que je disais tout à l'heure. 2016-2019-2022. Voilà. Donc ça nous emmène dans 3 ans, à partir du dans 4 ans après, à partir du plus bas de 2022. Ce qui veut dire que nous sommes dans la phase ascendante de ce cycle de Kitchin, qui est lui-même le dernier
cycle.
Élément du cycle global de Juglar. Voilà. Ouais. Après, donc, ce qui doit se passer depuis fin 2022, c'est une amélioration des conditions économiques. C'était un exposé que j'ai souvent soutenu. Et je continue de le penser, puisque je constate qu'il se produit, même si c'est quand même pas très fort. Mais j'avais indiqué que ce cycle de Juglar, donc le grand, est le plus faible d'une triade de Juglar. Donc c'est celui sur lequel on ne peut pas attendre grand-chose non plus. Donc ce qui est en train de se produire, c'est une économie qui croît aux États-Unis et un peu par capillarité,
diffusion,
en quelque sorte,
d'accord.
Dans le monde,
reste du monde,
de manière assez modeste. C'est modeste ce qui est devant nous. Donc, les perspectives de bénéfices, moi je ne fais pas d'analyse financière, mais sur ce point macro, les perspectives de bénéfices, pour moi, sont normalement bonnes en 2024 et normalement bonnes en 2025.
D'accord.
Après, je fais une petite, peut-être pour relier avec les petites et moyennes valeurs, mais dans un cycle cette fois-ci boursier, donc je me réfère plus au temps exact des cycles économiques, cycle boursier, il y a toujours le temps de la baisse de taux et le temps de la hausse de taux depuis que les banques centrales sont actives, donc environ 50 ans à peu près.
Ouais.
Et le temps de la baisse de taux a toujours été favorable à des grandes entreprises. Le temps de la hausse de taux, c'est toujours quand l'économie apparaît un peu trop tendue.
Ouais.
Et qu'il y a des risques avec un chômage bas, d'une inflation forte, etc., etc. Et à l'intérieur de ça, la décomposition est telle que, normalement, les plus petites valeurs sont en deuxième partie de cycle et pas en première partie de cycle. Comme on est en train de monter les taux, certes, j'ai bien entendu qu'il fallait les baisser, mais je ne présuppose pas que les taux...
Pour l'instant, on ne les a pas encore baissés.
Et surtout, j'ai entendu les banques centrales qui me surprennent. Mais autant, elles ne me surprenaient pas quand elles ne voyaient pas l'inflation. Mais là, elles me surprennent à dire qu'il faut absolument les baisser, les taux. Parce que je ne vois aucun indicateur économique qui justifie ça.
On peut avoir des surprises encore de ce point de vue-là.
Mais je ne vais pas vous dire les banquiers sont trop...
Non, s'ils veulent baisser les taux, ils baisseront les taux.
Personnellement, je ne vois aucune raison de les baisser. Je considère qu'on est encore dans un cycle de hausse de taux. Je considère que l'inflation réapparaîtra d'ici un an ou deux et que le contexte géopolitique va lui aussi s'aggraver, donc va aller dans ce sens-là. Ce qui veut dire que pour moi, la rotation à l'intérieur de ce marché, la rotation doit continuer et je ne vois pas pourquoi les petites ou moyennes valeurs ne profiteraient pas de cette rotation, puisque ça appartiendra à ce moment du cycle.
Donc on va repartir, le marché va repartir pour un tour de les taux élevés pour longtemps et peut-être même des taux un peu plus élevés encore pour plus longtemps.
J'ai envie de dire oui, mais ça ne sert pas à grand-chose que je dis ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel consensus autour... Enfin, il y a eu une frénésie en décembre...
Je ne sais pas, j'entends des gens à Wall Street qui disent il n'y aura pas de baisse de taux cette année de la Fed.
On parle du dernier trimestre de 2023, où on anticipait 6 ou 9 baisses de taux.
Oui.
Je voyais ça, je tombais de ma chaise.
Tout le monde. Je
ne vois pas pourquoi ce serait comme ça. Donc, je le dis benoîtement, simplement, non, je ne pense pas qu'il y ait matière à baisse de taux.
Il n'y aura pas 10 baisses de taux
cette
année.
Et je ne comprends pas qu'il y en ait. Sauf pour des raisons politiques ou des raisons, alors je dirais, de politique monétaire, de fine-tuning.
Oui, de recalibrage. Ah oui, on ne parle pas de baisse de taux pour raccommoder l'économie.
Rien à voir avec un cycle.
Les seules baisses de taux qui sont signalées par les banquiers centraux, c'est bien dans le cadre d'une recalibration de la politique monétaire, pas du tout d'un besoin d'accommodation des économies.
Ça, c'est surtout vrai aux États-Unis, parce que c'est vrai que la croissance américaine a fait que d'être révisée à la hausse. Rappelez-vous, en début de l'année dernière, on pensait que la croissance US allait faire 1%. Puis maintenant, le consensus est passé à 2. Il y a certains grands économistes qui attendent même 3%. Avec le rebond, je rappelle, il y a des dépenses du consommateur, mais aussi des dépenses des États avec, ils vont continuer. Donc, c'est vrai, mais là, le marché, j'ai l'impression qu'il est repassé. Donc voilà, moi, je suis assez en ligne avec ce que vous dites. Il y aura peut-être un fine-tuning aux États-Unis, peut-être une ou deux. Ce sera vraiment très, très légère et ponctuelle. Parce que finalement, peut-être qu'on va repasser une économie good news et good news. Si l'inflation repart, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques avancés sur l'inflation qui regardent que normalement, à partir de l'été, l'inflation réaccélère aux États-Unis. Mais pour la première fois, ce sera peut-être une bonne nouvelle. Si l'inflation accélère, c'est que l'économie va mieux, les salaires tiennent.
S'il y a de la croissance. Justifie effectivement un peu plus de hausse de prix.
Les créations d'emplois sont toujours là. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu pour la première fois depuis février 22, vendredi dernier, les hausses de salaire sont plus qu'à 4,3, je crois, de mémoire. On était à 4,4, 4,5 avant. Voilà, ça rebaisse doucement. Donc voilà, il ne faut pas vous dépêcher si l'économie tient bien, etc. Peut-être qu'on va être plus good news et good news. Et c'est pour ça qu'il y a une recorrélation pour l'instant que sur les méga-caps, parce qu'on a quand même vu hein, depuis 4-5 mois, les marchés font des plus hauts historiques, alors que les taux sont repassés 3,80 à 4,20. Donc il y a une recorrélation sur les méga-caps, malheureusement pas sur les small et mid, hein, parce que clairement quand les taux ont monté, les small ont rechuté tout de suite. Donc voilà, donc en tout cas, ça c'est le cas aux États-Unis, qui a énormément de productivité avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de productivité en plus qui a un impact désinflationniste, pardon, donc pas forcément besoin des taux. En Europe, c'est différent. Christine Lagarde a continué, on l'a dit la semaine dernière, elle a révisé encore de 0,8 à 0,6 la croissance et a révisé à la baisse
l'inflation. Elle a révisé encore plus l'inflation que la croissance.
Exactement. Donc voilà, donc la question de savoir est-ce qu'elle va faire quelque chose, c'est toujours la lutte entre les Français et les Allemands. Monsieur Villeroy de Gallo attendait même peut-être avril, mais bon, en avril, il n'y aura toujours pas la croissance des salaires. Ce que je vous rappelle, la croissance des salaires au T4 a commencé à ralentir par rapport au T3. Et normalement, à la réunion de juin, ils auront les chiffres du T1 qui devraient continuer de ralentir en zone euro. Voilà. Mais c'est sûr qu'en tout cas, la productivité n'est pas la même en Europe. Donc moi, je vois plus, en effet, peut-être l'Europe baisser, mais les États-Unis peuvent très bien... C'est pas du tout le même modèle de croissance, quoi.
Est-ce qu'il faut imaginer... Parce que pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que le marché considère que c'est juin et pour la BCE et pour la Fed. C'est plutôt d'ailleurs un message qui est endossé ou par Jérôme Powell ou par Christine Lagarde avec leurs mots à eux de banquiers centraux. Mais qu'est-ce qui pourrait désaligner ces deux calendriers? Est-ce qu'il y a un risque assez fort, effectivement, que ce calendrier, peut-être, à l'arrivée, ne soit pas celui qui est anticipé aujourd'hui, Nuno?
Ben c'est vrai que a priori, on se positionnait plutôt vers une baisse des taux de la BCE en septembre, nous.
Donc plutôt après, plus tard que ce que le marché imagine.
Pour les raisons liées justement au salaire et à la productivité en Europe qui n'est pas très favorable. La tendance à la baisse de l'inflation sous-jacente aux États-Unis nous semble quand même plutôt bien installée. La Fed regarde beaucoup le core PCI qui est quand même plutôt raisonnable. On peut imaginer qu'ils seront en mesure de faire quand même un geste. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas forcément nécessaire. L'économie américaine se porte suffisamment bien.
Un geste, vous dites.
Voilà. Quand même donner... Parce que s'ils ne font rien cette année, ça risque quand même, à un moment donné, de faire tanguer les...
Là, Powell n'arrête pas de nous répéter qu'il y aura quelque chose. Hein.
Voilà. Tout à fait.
Donc ça crée quand même une forme d'attente. Le marché, pour l'instant, que ce soit mai, juin, juillet, septembre, le marché s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, mais il veut être sûr à 100% qu'il y a un mouvement à la baisse devant, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et d'ailleurs, d'autres estiment, comme vous dites, c'est un geste et pas plus, hein. Raphaël Bostic d'Atlanta, il dit, moi je veux bien une baisse de taux en juin, mais tout de suite derrière, il faut que le marché comprenne que c'est une pause. Hein.
Exactement.
C'est pas un cycle de baisse de taux qu'on entame aveuglément, sans savoir où on s'arrêtera. Hein.
Et puis, à la limite, c'est plutôt pas mal, même pour les marchés, qu'ils en gardent un peu sous le pied pour 2025. Parce que sinon, s'ils épuisent un peu leur potentiel, derrière, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, moi je trouve que c'est plutôt de bonne politique, effectivement, d'aller prudemment.
Comment est-ce que les marchés peuvent se déployer partant de là, avec ce qu'on a déjà dit sur le paradigme des méga-caps qu'est-ce qui est intéressant d'avoir aujourd'hui en portefeuille pour vous, Julien? Quel type de positionnement on a envie d'avoir? Et encore une fois, l'idée de diversification, ça reste quand même plutôt du bon sens en termes de gestion du risque. Comment on se diversifie aujourd'hui sur ces marchés?
J'avais proposé il y a, je crois, 2 ans maintenant de revenir un peu dans des équilibres de portefeuille globaux. Je ne parle pas des marchés actions, une allocation.
Ouais, globale.
De revenir sur des obligations, non pas parce que c'était attrayant, mais parce que les coupons allaient compenser les éventuelles dégradations de la valeur en cas de glissement de taux à la hausse. Je pense toujours la même chose, même si je suis un petit peu moins enthousiaste, mais je pense toujours la même chose. Je pense que contrairement, on a passé 5 années où je pense qu'il ne fallait détenir aucune obligation, parce que quand on n'est pas rémunéré pour quelque chose, c'est quand même un peu... Là, au moins, il y a de la matière, y compris par rapport à des niveaux d'inflation. Donc je pense qu'on peut toujours avoir, selon modulo, donc les profils de risque, détenir des obligations. Après, dans la catégorie action, je vais revenir sur la partie indice de tout à l'heure. Je considère que les indices ont été construits pour donc ce qui est leur objet, hein, c'est-à-dire de refléter une économie ou un pan de l'économie. Dans les indices, il va y avoir des titres qui vont avoir des comportements, non pas obligataires, mais qui, à l'intérieur d'une enveloppe action, vont s'apparenter à une poche obligataire. Parce qu'ils vont jouer le rôle d'amortisseur ou d'autres, un rôle de rendement, etc. Donc, à quoi finalement les indices, un indice c'est une diversité de valeurs pour représenter une économie, c'est donc une diversification en soi. Pourquoi sortir des indices ? Justement, la question c'est pourquoi sortir des indices ? Puisque si par exemple je suis épargnant européen, bah, c'est normal que j'ai alors ma partie obligation puis une partie action composée de un tiers d'Europe, un tiers d'USA par exemple, et puis un tiers d'autres choses avec du private equity, des émergences, ce qu'on veut, pour diversifier les risques. Pourquoi sortir des indices ? Bah, il faut sortir des indices si on a des convictions extrêmement fortes, et les convictions extrêmement fortes dans l'économie telle que je l'ai décrit, elles sont pas nombreuses, et c'est celles dont on parle en ce moment. Donc la seule possibilité de sortir de ce que moi je trouverais une composition normale, c'est d'être ultra diversifié, parce qu'on ne peut pas préjuger de l'avenir et que ça sert à ça, la diversification, c'est d'aller prendre un risque sur ce qui est en train d'absorber des grandes parties de l'économie, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça c'est une réalité. Que ça absorbe des bouts de l'économie, c'est une réalité. Et ce qu'on ne sait pas, c'est la vitesse.
Et donc, moi, ça, vous dites qu'il faut aller chercher en dehors des indices.
Je crois que si on veut faire quelque
chose... Oui, je comprends.
Il y a la principale chose...
Si on veut vraiment faire de l'alpha, il faut sortir des indices. Sur le thème de l'IA...
C'est ça, ou la thématique liée à la géopolitique, c'est-à-dire de renforcer tous les investissements liés à la guerre, qui, de toute façon, devraient continuer, malheureusement, de progresser, et aussi l'exposition aux matières premières, qui n'apparaît pas aujourd'hui comme pertinente, mais qui, à tout moment, peut se réveiller et, dans le contexte géopolitique qu'on a et donnera justement une contribution intéressante à un portefeuille. Mais sinon, j'ai toujours essayé de justifier la diversification par la difficulté de détecter à l'avance les zones de surperformance les plus évidentes. Voilà. Je maintiens qu'on est toujours dans ce type de marché, donc c'est tout à fait à la marge qu'on peut sortir d'une diversification.
C'est vrai que c'est assez intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour jouer l'IA, pour investir dans l'intelligence artificielle en bourse, pour le moment, c'est quasiment que les méga caps. Hein. C'est ASML, première capitalisation de l'Eurostock 50, Nvidia, je ne sais pas quel est le poids dans le S&P. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a tous les dérivés, aussi l'électrification, en général électrique qui fait un des plus hauts. Donc c'est vrai qu'à la limite, ça, c'est des très gros poids.
Les médias, Publicis fait bien, porté par l'IA. Enfin, en tout cas, c'est un des arguments qu'on entend.
RELX, pareil, au UK, Wolters Closers aux Pays-Bas. Voilà, tout ça, c'est comme des gros poids des indices et des méga-caps. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, que ce soit Small et Mine, c'est une dérivée seconde. Ça va arriver un jour, donc il y aura des gagnants, des perdants. Mais clairement, on attend que ça arrive, parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui vont gagner en productivité, qui vont gagner en marge. Donc la question de savoir, c'est est-ce qu'ils vont leur redistribuer leurs salariés ou ça sera les actionnaires, ça sera un peu un débat. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment les méga caps qui prennent tout. Ouais. Et nous, on a vraiment hâte de voir cette dérivée seconde arriver chez nous.
Et la diffusion peut aller assez vite dans des entreprises de taille intermédiaire. Est-ce qu'on peut imaginer que, des nouveaux process, des outils puissent être déployés assez rapidement avec une adhésion quand même du groupe, de l'entreprise, de tout le monde pour générer ces gains de productivité dont on parle?
En tout cas, la plupart des sociétés que l'on voit, notamment les ESN ou même les sociétés de conseil comme Wavestone, nous disent que ça va aller beaucoup plus vite que les anciennes technologies comme le cloud. Le cloud, ça a mis plus de 10 ans avant d'arriver, que les gens changent, etc. Mais là, dedans, ça va aller hyper vite. Tout le monde, maintenant, fait des nouvelles offres. Ça va arriver, la question de savoir quand. Mais en tout cas, j'ai l'impression que personne ne veut le louper. Tout le monde veut être dedans. Il y aura beaucoup de formations aussi de nouvelles personnes pour se réadapter. Mais ça, à la limite... Bon, j'écoutais jeudi dernier une société qu'on aime beaucoup, vous savez, c'est Neurone, monsieur Luc de Chamart qui a créé, nous disait, ce qui était génial, c'est que je crois qu'elle a créé la société dans les années 80, en disant, et je répète sa phrase, en disant que l'informatique, ça va être limite plus important que l'air que l'on respire. C'était une phrase qu'il disait dans les années 80, et on le voit aujourd'hui, clairement, et en fait, ces révolutions... Évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, comme le helpdesk, etc., mais qui vont être réemployées pour beaucoup d'autres. Donc après, on va prendre ces personnes-là, on va les remettre là, un peu de formation. Voilà, de toute façon, on manque d'ingénieurs structurellement. Donc pour moi, les ESN, ces sociétés-là de conseil en informatique, c'est une autoroute pour elles. Donc on voit malheureusement Capgemini qui a refait un plus haut historique.
Et malheureusement
tant mieux pour les...
Oui.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est prime à la taille. À la taille. Ouais. Capgemini, c'est quasiment 14 fois le résultat d'exploitation, les sociétés un peu plus petites, c'est 12 fois, et les micro-small, elles sont entre 8 et 10. Donc c'est vrai qu'il y a quasiment 40-50% de décote, c'est pas forcément justifié, sachant que Capgemini est très corrélé au GDP, elle a dit qu'elle fera entre 1 et 2% de croissance organique en 2024. Pareil, T1 compliqué, ça accélère.
Les small et micro, elles font combien de croissance ?
C'est souvent, elles font x2, x3. Donc bon, on est patient.
Les arguments s'empilent. Non, mais les arguments s'empilent.
Ouais, on lâche rien.
On verra. Bah non, mais 24 est peut-être une année, effectivement, d'un tournant et important la revalorisation des small caps.
J'espère juste que ça ne sera pas que en deux mois, comme novembre, décembre l'année dernière. Ah, oui. Et j'espère que le S2 sera... voilà.
Oui, que ça puisse être une hausse, quotidienne, nuancée, continue. Effectivement, j'ai pas l'impression que les marchés fonctionnent comme ça aujourd'hui, hein, mais ça peut aller très vite, très très fort. Si on regarde, alors j'allais dire un peu ailleurs dans le monde, bon, il y a des mouvements sur l'yen qui commencent à être peut-être regardés. Nuno, on est, je le disais en introduction, dans la séquence banque centrale. Au-delà de la réserve fédérale américaine, la Banque du Japon se réunit également la semaine prochaine. Bon, tout le monde attend ce moment où la Banque du Japon sortirait des taux négatifs. Je crois que les taux directeurs sont à moins 10 BP, je crois, aujourd'hui au Japon. Bon, est-ce que le moment est proche? Et encore une fois, c'est la question qu'on se posait déjà à l'époque. Qu'est-ce que ça change au fonctionnement des marchés globaux d'avoir une Banque du Japon qui sortirait, qui monterait ses taux pour la première fois depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années?
Alors, effectivement, on l'attend plutôt pour le mois d'avril, en fait, cette normalisation, si on peut dire, puisque ça va être un timide mouvement. Ça risque de d'abord d'aider le yen, évidemment, qui est quand même la devise un peu malade depuis quelques années. Si on a notamment un peu d'aversion au risque à un moment ou un autre dans l'année, ça sera... clairement, avec le dollar, des devises qui restent quand même à privilégier. Donc, ça permet cette fameuse quand même diversification un petit peu des portefeuilles. Je suis assez d'accord qu'il va falloir revenir un peu sur l'obligataire qui offre quand même, surtout sur le crédit, plutôt de la valeur. À court terme, on est moins favorable quand même sur la partie dette souveraine. Et c'est vrai que pour ce qui est du marché japonais, en tout cas... on pense que c'est pas fini et c'est là aussi un bon diversifiant pour les positions surpondérées qu'on peut avoir sur les États-Unis avec un marché qui est beaucoup plus value, qui a aussi une composante technologique qu'il faut pas complètement ignorer et on peut trouver de belles valeurs sur ce marché aujourd'hui.
Donc, et même avec la perspective effectivement d'une banque du Japon qui normaliserait ou qui mettrait à zéro ses taux directeurs, la perspective d'un yen qui pourrait se réapprécier encore un peu plus, on a vu un peu plus de vitesse dans la hausse du yen ces derniers jours là, ça n'obère pas totalement les perspectives du marché action.
Là, il y a une réaction un peu épidermique.
Oui, si ça perd deux.
Mais on ne pense pas que ça va être de nature à
casser la dynamique.
Casser la dynamique du marché japonais.
Intéressant. Et vous regardez le marché japonais, Julien? Non, je ne sais pas, ça fait partie quand même des marchés dont on parle aujourd'hui.
Il ne manifeste aucun problème. Donc, il appartient à la diversification.
Ouais.
Et pour la conséquence, pour la partie du yen, je pense que le mouvement de la Banque centrale... Alors là, je vais sortir un tout petit peu de mon domaine d'économie comportementale, je pense que la Banque centrale du Japon ne pouvait pas... c'était un peu dangereux pour elle au moment où il y avait une normalisation aussi forte aux États-Unis.
Ouais.
C'est dangereux pour elle et pour les Américains, pour tout le monde. Je crois qu'il... Là-dessus,
qu'est-ce qui était dangereux de dire
que de commencer à modifier, eux, leur politique monétaire.
Que le Japon ?
Oui, je pense que ce n'était pas le moment.
Ah oui,
alors qu'ils auraient pu, mais je crois que ce n'était pas le moment.
Ouais.
La situation est la même aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou il y a un
an. Oui.
Donc, voilà.
Oui, mais il y a 6 mois de plus d'évidence que la situation se maintient telle que...
La question, c'est le veulent-ils ? Les conditions, elles sont différentes, les conditions d'inflation chez eux en plus. Le veulent-ils ? Il est possible qu'ils considèrent qu'ils atteignent les objectifs, les fameux objectifs d'Abe d'il y a 15 ans maintenant, et que donc peut-être qu'une normalisation à la manière de ce qu'ont fait les États-Unis, parce qu'on a toujours dit que les États-Unis montent les taux pour lutter contre l'inflation, etc. Moi, j'ai toujours milité pour le fait que c'était une simple normalisation. Il est possible qu'il y ait la même chose. Ce ne serait pas du tout aberrant. Voilà. Et je pense que les conditions sont peut-être plus ouvertes cette année qu'elles ne l'étaient au cours des 18 mois passés. Et pour le Nikkei, vu sa construction, je ne vois pas de signe de danger. Voilà.
D'accord.
Je n'ai pas de problème sur Nikkei. De toute façon, j'ai des problèmes sur peu d'indices, sauf quelques zones émergentes qui ne manifestent pas beaucoup d'intérêt. Mais encore une fois, dans la diversification, il va y avoir des bonnes choses. C'est un moment, 2024, de rotation régulière des compartiments actions dans le monde, dans le cadre d'une économie haussière, dans le cadre d'une économie qui se porte bien. Et encore 2025 à mon avis.
Donc des passages de relais comme ça, d'un marché à l'autre, d'un grand segment de marché à un autre, au fur et à mesure. Avec l'horizon 2025 en tête.
Avec, je pense que ça devrait continuer encore en 2025, oui.
Ouais.
Enfin, bon. Il faudra voir, hein, mais oui. Les conditions à la fois économiques, quand le ralentissement apparaît, etc. Et parfois, il a un an de retard par rapport au cycle, parfois, il a 6 mois d'avance. Bon, ça, c'est... on ne peut pas dire ça. Mais les conditions restent très bonnes. Très bonnes.
Ouais.
Bon. Non, on a bien aussi les actions japonaises chez Gay Lussac Christian. Non, on a lancé un fonds microcap monde, donc c'est vrai que ça vous pouvez étonner.
Qui intègre les fonds la cote japonaise.
Exactement, on a 20% de valeur japonaise. Donc déjà, donc en plus, c'est souvent des sociétés locales, donc si l'yen s'apprécie, c'est tout bon pour nous. C'est des sociétés qui ont un cash monstrueux, donc si les taux remontent, c'est que du bénéf également. Et c'est vrai que c'est plein de petites histoires locales qui sont assez sympas et qui ont. Qui se paye beaucoup, beaucoup moins cher, même que je ne parle même pas des États-Unis ou même qu'en Europe. Nous, une ligne qu'on aime beaucoup, c'est Kota, vous savez, c'est les leaders de gel dans les salons de coiffure et aussi pour les particuliers. Vous savez que les Japonais adorent toujours se faire des
gels pour les cheveux.
C'est stylistique. C'est des sociétés qui font 4-5% de croissance organique, une génération de cash énorme, un cash au bilan monstrueux. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas les sociétés qui ont la meilleure allocation du cash parce qu'ils ne redonnent pas souvent en touche. Mais voilà, il y a beaucoup de choses.
Mais on redécouvre ce marché, vous êtes d'accord. Dans son micro cap monde, 20% de Japon, c'est beaucoup.
Ça nous a clairement aidé à la performance l'année dernière. Ça continue en ce début d'année. Mais on a eu le même phénomène sur les small cap japonaises. Elles ont très nettement sous-performé. Les large caps, quoi.
Oui.
Donc, elles ont bien performé en absolu, mais elles ont encore un rattrapage énorme. Donc, c'est vrai que, clairement, il y a un très, très gros potentiel sur les valeurs japonaises, même si on a dit hier, elles ont un petit peu souffert dedans, mais on n'est pas du tout inquiet dessus.
Je voulais qu'on dise un mot, peut-être, Nuno, pour finir. Alors, on est dans l'année d'élection historique, hein, 60% du PIB mondial qui vote lors d'élections majeures. Il y aura les élections européennes devant nous, mais il y a eu des élections législatives ce week-end au Portugal, avec un résultat effectivement qui montre le remplacement du gouvernement de gauche par sans doute un gouvernement de droite, centre-droit,
mais minoritaire.
Avec effectivement une forte progression de l'extrême droite qui doit multiplier par 4, je crois, son nombre de sièges par rapport aux élections précédentes.
Voilà.
Un commentaire sur ce résultat et puis redire d'un mot quand même la performance économique du Portugal depuis 10 ans qui est quand même spectaculaire. Et est-ce que ce genre de résultat politique qui peut jeter une forme d'incertitude sur la capacité à gouverner avec une majorité, est-ce que ça peut entamer le momentum économique dont bénéficie le Portugal depuis 10 ans maintenant?
Alors d'abord le parti d'extrême droite qui a été propulsé à la troisième position avec plus de 18% des voix. Chega, ça veut dire assez. Donc il a été élu notamment sur son discours anticorruption, puisque la corruption avait touché historiquement à la fois le centre-droit et puis le centre-gauche, avec pour le gouvernement actuel effectivement une sanction qui est assez... assez forte.
Oui, Costa est tombé à cause de ces affaires de corruption qui entouraient.
Pour autant, alors c'est vrai que l'économie a beaucoup rebondi après de grandes difficultés, avec une aide de la Troïka qui est quand même venue entraîner un certain nombre de réformes qui ont été assez structurelles et des coupes assez sombres dans le budget de l'État. Le programme du parti de centre-droit est plutôt dans une logique de réduction des impôts qui effectivement sont assez élevés, notamment pour l'impôt sur le revenu. Donc on peut espérer quand même que ça amène une forme de dynamisation. En tout cas, les élections, malgré la poussée de l'extrême droite, on n'a pas vu de sanctions sur les indices. C'est peut-être parce que malheureusement, c'est un phénomène assez répandu. Mais il est clair qu'on va avoir une plus grande difficulté à mettre en œuvre des réformes sans l'appui a priori du Parti Socialiste qui a dit qu'il ne soutiendrait pas ce gouvernement s'il devait être mis en place. Est-ce qu'il y aura des alliances ponctuelles avec l'extrême droite sur un certain nombre de réformes? On verra, mais effectivement, moi je ne pense pas que ça va mettre en échec le bon comportement. D'ailleurs, on le voit de manière générale en Europe du Sud. Il y a quand même un rebond aussi de l'Italie. C'est d'ailleurs une de nos positions sur la partie dette. On trouve
que vous continuez d'aimer.
Le spread italien reste encore assez correct, au-dessus des 130 points. En tout cas, en termes de portage, c'est pas choquant d'en avoir. Et l'Europe du Sud, d'une certaine manière, retrouve un peu des couleurs par rapport au centre de l'Europe, à l'Allemagne, qui est quand même un petit peu à la peine en ce moment.
Surperformance de la périphérie par rapport au cœur en Europe, qu'on observe depuis plus d'une paire d'années maintenant, pour dire les choses. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International, Julien Ebenzal, administrateur d'Advise, et Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion.